VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 15h à Tananarive. Bienvenue à notre journal. Élection à Madagascar. Dans 9 jours, les 2 finalistes à la présidentielle malgache s'affronteront dans un second tour, dont l'issue manquera le retour au pouvoir d'un ancien chef d'État de la Grande Île, soit Marc Ravalomanan, soit André Rajoel, le jeune politicien qui lui avait succédé il y a 9 ans. Ce week-end, les 2 candidats ont participé à leur premier débat télévisé, nous dit Gaby Dorsil.
Pour l'ancien président Ravalomanan, le souvenir du mouvement de contestation populaire encouragé par le maire d'Antananarive en 2009 reste encore vif et il a promis de revenir au timon des affaires pour achever, dit-il, le travail interrompu sous la présidence non élue de M. Rajoel. Dans ce débat télévisé en direct, Ravalomanan a accusé son rival d'avoir accédé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, lequel, selon lui, a entraîné la détérioration des conditions de vie du citoyen lambda. Il se propose comme celui qui mettra fin à ce qu'il appelle le cercle de la pauvreté à Madagascar. Rajoel, lui, a joué la carte du leader tourné vers l'avenir, promettant de résorber le chômage, de favoriser l'autosuffisance alimentaire et de combattre l'insécurité. Les 2 hommes reprendront cet exercice devant les caméras et face au public 3 jours avant le scrutin du 19 décembre. Seulement 4% des suffrages les séparaient à l'issue du premier tour le 7 novembre.
République démocratique du Congo, l'Union européenne a annoncé aujourd'hui la prolongation pour 1 an jusqu'à décembre 2019 de ses sanctions visant 14 hauts responsables du régime du président congolais Joseph Kabila, dont son dauphin pour la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadary. Ces responsables sont accusés notamment de violence lors de manifestations en septembre 2016. Les sanctions, qui consistent en un gel d'avoir et une interdiction de visa pour l'Union européenne, visent donc entre autres Ramazani Shadary, le candidat désigné cette année pour représenter le camp Kabila à l'élection présidentielle du 23 décembre. Toujours en RDC, la campagne débutée le 23 novembre se poursuit en général sans incident majeur, mais des actes de violence ont été enregistrés dans la journée d'hier, notamment dans une ville du Kasaï. Les détails avec Jean-Roger Bion.
6 partisans du candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary disent avoir essuyé des jets de pierre. Ils pointent du doigt le parti d'opposition UDPS du candidat Félix Tshisekedi. L'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, n'a pas pu se rendre à Kindu, dans le nord-est de la RDC, à cause des violences qui auraient fait au moins 8 blessés graves, d'après une organisation de défense des droits humains. Ces premières manifestations de violence font craindre le pire pour la journée du 23 décembre et après. La CENI a lancé une mise en garde à l'endroit des dirigeants politiques, tout en précisant vendredi que la date du scrutin sera maintenue pour la présidentielle, les législatives et les élections provinciales. 21 candidats sont en liste pour succéder au président Joseph Kabila. La proclamation des résultats provisoires est prévue le 30 décembre.
Le prix Nobel de la paix sera décerné ce lundi à Oslo en Norvège au médecin congolais de la RDC Denis Mukwege et à Nadia Murad, une irakienne ex-esclave des djihadistes. Les 2 ont souhaité hier que ce prix contribue à lever l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Le docteur Denis Mukwege, 63 ans, et Nadia Murad, 25 ans, ont reçu le prix Nobel de la paix en octobre dernier pour leur lutte contre le viol en tant qu'arme de guerre. À l'hôpital de Panzi, que dirige le docteur Mukwege dans le sud Kivu, province de l'Est de la RDC, l'un des responsables, le docteur Patrick Kubuya, s'est dit fier du prix Nobel accordé à son compatriote.
Je peux seulement féliciter le docteur Mukwege parce que c'est un prix qu'il mérite par rapport à ce qu'il fait pour notre pays, pour notre province. Parce que c'est un homme qui a risqué sa vie pour aider cette population. Je l'encourage de ne pas baisser les bras. Je sais qu'un jour la paix reviendra dans notre pays. Je lui dis qu'on est derrière lui, on va continuer à travailler ensemble pour qu'on puisse voir comment mettre fin à ce fléau. C'est un homme dynamique, un homme courageux, un homme qui a les soucis de ses employés. Il ne s'arrête pas à être médecin directeur. Il vient aussi soigner les suivants des violences sexuelles. Ils opèrent aussi et ils font leur suivi pendant leur séjour ici à l'hôpital. C'est un homme qui prend les malades au sérieux.
Le docteur Patrick Kubuya, coordinateur médical du projet de prise en charge des survivants de violences sexuelles à l'hôpital de Panzi, en RDC.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, au moins 500 000 ressortissants des régions anglophones sont installés désormais dans les villes francophones du pays, selon de récentes estimations. Ces déplacés qui ont fui le conflit en zone anglophone vivent pour la plupart dans des conditions précaires. Le constat de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
À Yaoundé, Timothée Moussorongo héberge 11 déplacés internes de la crise anglophone. Pour les nourrir, il a fait un champ dans un marécage du quartier Fulan et y passe désormais 2 heures chaque jour. Au total, 18 personnes cohabitent dans sa maison de 4 pièces.
Mon séjour ici à Yaoundé est bon parce que je parviens à présent à dormir. Avant, je pouvais passer toute une journée sans dormir à cause des coups de feu.
David est l'un des déplacés internes hébergés par Timothée Moussorongo.
Je voudrais rester ici jusqu'à ce que les coups de feu cessent et puis je vais rentrer. Parce que quand j'ai quitté le sud-ouest, ma maison était comme ici et les ambazoniens tiraient sur les maisons des gens et tuaient les gens.
À la paroisse presbytérienne anglophone de Siméon, l'un des quartiers de Yaoundé, plus de 200 déplacés internes ont été recensés ici et assistent régulièrement au culte dominical. Sous anonymat, certains évoquent leurs conditions de vie à Yaoundé.
Ma vie à Yaoundé est terrible. Je ne comprends pas la langue, même pour discuter avec les gens, pour dialoguer. Je me sens très mal ici.
Je suis ici depuis 4 mois avec mes 3 enfants. Ce n'est pas facile après avoir quitté mon lieu de résidence à Bouéa, à Mouyouka. Je suis ici avec ma petite sœur. Nous vivons chez elle et j'ai des difficultés à payer les frais de scolarité. Je fais à manger et je vends au marché. Je vais d'un point à l'autre parce que je n'ai pas encore un endroit fixe pour m'asseoir.
J'ai fait déjà 6 mois ici à Yaoundé. Je ne fais rien, je vais seulement à l'église chaque jour. Je suis là, j'attends seulement le temps que Dieu va toucher les gens, je vais rentrer chez moi.
Ces déplacés saluent à juste titre l'élan de solidarité de la paroisse anglophone de l'église presbytérienne de Siméon où un comité d'assistance aux déplacés internes a été mis sur pied. Les denrées alimentaires, les vêtements et de l'argent en espèces ont d'ailleurs été offerts à certains parmi eux. Cependant, la solidarité pour les déplacés anglophones à Yaoundé a parfois engendré des suspicions, témoigne Timothy Moussorongo.
Le ministère des gendarmeries avec le chef du quartier sont venus chez moi à la façon que les gens ont de donner le conseil que le papa là, il a gardé les ambazoniens chez lui avec les armes. Ils sont venus à 3h du matin, ils ont dit qu'ils vont fouiller la maison. Bon, après plusieurs mois, tout s'est passé bien.
Le 21 novembre dernier, le gouvernement camerounais a créé un centre de coordination de l'assistance humanitaire d'urgence pour encourager notamment les réfugiés internes à revenir au bercail. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
République centrafricaine, la ministre française des armées, Florence Parly, est sur place aujourd'hui et demain. Elle va réaffirmer à Bangui le soutien de la France à la Centrafrique, où la Russie est de plus en plus présente, et livrer du matériel militaire français à l'armée centrafricaine. La ministre française va aussi réaffirmer l'attachement de la France à l'initiative de paix menée par l'Union africaine en RCA, alors que la Russie a tenté d'engager un processus parallèle. En France, le mouvement populaire des Gilets jaunes ne faiblit pas suite aux manifestations violentes du week-end. Le président Emmanuel Macron va s'adresser ce lundi soir aux Français pour expliquer. Ce sera son premier discours public depuis la manifestation du 1er décembre. Rosine Mounezero nous en dit plus.
Dans cette intervention très attendue, le chef de l'État français devrait expliquer comment il compte sortir le pays de cette situation de crise qui risque d'affecter l'économie et même de s'étendre au-delà de l'Hexagone. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, indique que M. Macron offrira des mesures concrètes et immédiates, mais pas l'augmentation du salaire minimum réclamée par de nombreux manifestants. Une promesse la semaine dernière de baisser les prix du carburant s'est avérée insuffisante pour calmer la colère des Gilets jaunes. Ils étaient au moins 136 000 samedi à Paris où, selon les autorités locales, des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Après une riposte musclée des forces de l'ordre, environ 2 000 interpellations, dont plus de la moitié à Paris, le gouvernement français prône le dialogue. Le Premier ministre Édouard Philippe a parlé samedi soir de la nécessité, je cite, de retisser l'unité nationale. Dans la matinée, Emmanuel Macron recevra syndicats et organisations patronales aux côtés des présidents d'associations d'élus, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Toutefois, font remarquer les analystes, il est difficile de contenir un mouvement issu des masses via les médias sociaux, sans leader précis et surtout soutenu par une majorité de Français.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.